Einstein tout à l'heure, il avait, pour résumer, enfin, l'existence, le je suis et le ce qui est. Et il y a toujours, enfin, une sorte de confusion en moi, parce qu'il y a la conscience que j'ai assez du moment présent et d'être conscient du moment présent. Et j'ai toujours une autre conscience derrière qui est consciente de ça, et après une conscience qui est consciente de ce que je suis consciente de. Et j'arrive pas à trouver le point.
Tu peux pas?
Et c'est ce que je commence à comprendre.
Tu peux pas?
C'est qu'en fait, il y a un point où j'essaye de saisir le point ultime.
Tu peux pas?
Et on peut pas.
Tu ne peux pas le saisir? S'il était saisissable, il serait connu.
Voilà,
il serait connaissable.
Il y aura encore quelque chose derrière.
Il y aurait quelque chose derrière.
Oui.
Oui.
Et très souvent, je rentre dans ces trucs.
Oui. Tu ne peux qu'en avoir le parfum. Oui. Francis Lucille parle de parfum. Oui. Tu ne peux en avoir que la perception, une aperception. C'est tout.
Donc c'est vain de chercher.
Tu ne peux pas aller plus loin que là.
Oui.
Simplement, qu'est-ce qui connaît tout ce qui peut être connu? Il y a quelque chose d'indubitable et d'insaisissable. Tu ne peux pas aller plus loin que ça. Et un jour, c'est absorbé ou c'est pas absorbé. Tu vois? Mais c'est une absorption, c'est-à-dire que ça va en ressortir, parce que si jamais ça reste absorbé, le corps meurt, tu vois, déjà.
Cette histoire de enfin mon histoire entre guillemets quoi,
oui.
Le niveau de conscience, ce qui fait que il est très difficile de savoir si la conscience qu'il y a de ce moment-là est la conscience vraie ou si c'est juste une partie. Je ne sais pas si je suis bien. Mais...
Comment elle pourrait être vraie ou pas vraie?
Parce qu'il y a cette conscience et il y a quelque chose qui est en plus conscient de ça.
Qui connaît cela, oui. Ça veut dire que la conscience que tu connais n'est pas ultime.
Voilà, c'est ça.
Oui. Tout ce qui peut être connu ne peut pas être ultime. Il est inconnaissable. L'innommable, l'inconnaissable, l'imprononçable.
Mais on le sent quand même, non?
C'est une aperception.
C'est une aperception.
Non, je ne parle pas de je suis, je parle de ce qui est. Ce qu'on appelle je suis, l'être T, l'étant, peu importe le mot, cela qui constate, ce qui est conscient d'être conscient, est connu. C'est l'arrière-plan. On va dire l'arrière-plan. Comme vous l'avez utilisé aujourd'hui, c'était ce mot-là, connu aussi. Ce qui est, qui connaît tout ce qui peut être connu, donc je suis, est insaisissable, inconnaissable. S'il était connaissable, il ferait partie du connu. Ce qui connaît tout ce qui peut être connu ne peut pas être connu, par définition. Et cependant, il est indubitable. Dès que le regard se tourne de ce côté-là, c'est indubitable.
Mais je suis aussi indubitable.
Oui. Et pardon. Et
le je suis, je peux le sentir en effet, mais le
oui.
Le ce qui est, c'est un peu une déduction ça, pour moi.
Pour l'instant, c'est une déduction, peut-être, oui. Mais c'est... lorsque tu te vis en tant que je suis. En tant que cet arrière-plan. En tant que cela qui ne peut pas ne pas être. Tu peux constater que ce je suis tu le connais, il est connu.
D'accord. Donc, c'est une déduction. Donc, effectivement, c'est tout ça qui connaît, de ce qui connaît.
Voilà. Mais ça, c'est la déduction. Mais maintenant, maintenant que tu as fait cette déduction, je suis connu. Tu sais que je suis connu. Qu'est-ce qui sait que je suis connu? Regarde de ce côté-là. Que le regard se tourne de ce côté-là.
C'est un peu plus une déduction. Mais...
Voilà, c'est ça. On n'en a que ça.
Oui, c'est pas la déduction des autres, c'est aussi la mienne, forcément.
C'est inconnu. C'est indubitable et insaisissable. Il y a une évidence. Il y a une évidence qu'il y a quelque chose. Et cette évidence qu'il y a quelque chose, c'est tout ce qu'on en sait. C'est tout ce qu'on en connaît. C'est la limite. On ne peut pas aller plus loin que là.
C'est non manifesté, c'est ça ?
Oui.
Mais non manifesté, en fait, il est... de mon expérience, en même temps, au début, on a l'impression que c'est complètement non manifesté, mais en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il y a un dynamisme à l'intérieur de cela, et j'ai pas encore bien compris, mais quand je vois l'être à l'extérieur, j'ai l'impression que c'est ça qui sort à l'extérieur, que je reconnais. Est-ce qu'il y a un lien entre ce dynamisme du non manifesté et l'être qui est perçu à l'extérieur? Et c'est très joyeux. C'est très joyeux.
C'est tout un, bien sûr, oui. C'est tout un.
Voilà, il y a une unité. À partir du moment où on se retrouve à l'extérieur, forcément, ça recolle le morceau, ça redevient un tout, quoi.
Oui. Parce que ça apparaît à partir de ce qui est.
Et c'est dynamique, ce background, ce manifester. En fait, on croit qu'il n'y a rien, mais en fait, c'est vibrant. Il y a des impulsions d'intelligence. L'intelligence, c'est extrêmement vibrant. Il y a du dynamisme qui n'est pas encore manifesté. Et je pressens un lien entre ça et la perception extérieure.
Qui n'est pas encore manifesté, c'est juste impossible. Parce que ça suppose un temps. Alors, le temps fait partie de la manifestation.
Oui, c'est incré, c'est une impulsion, c'est intérieur, c'est supérieur.
Oui, oui. Ce qui est connu, tout ce qui apparaît au sein de ce qui est.
De l'inconnu.
Oui. Évidemment. Oui, ça, oui. Le dynamisme, moi, je ne sais pas, je n'ai pas cette expérience. Maintenant, en plus, c'est une expérience, tu sais, donc. Ça va forcément varier d'une personne à l'autre, ça. C'est la manière dont ça va être transcrit dans cet organisme. C'est pas la réalité. C'est la réalité, on n'en sait rien. En réalité, on n'en sait rien.
C'est la réalité de chacun, à ce moment-là. Du vécu de chacun, quoi, dans l'instant.
Ça, c'est juste illusoire, c'est juste une expérience. Non, c'est tout à fait ordinaire. Essaye d'arrêter d'être.
Impossible.
Cela, qui sait qu'il peut ne pas être, cette partie, tu vois, que tu contactes à ce moment-là quand je dis ça, qui sait qu'elle ne peut pas ne pas être. C'est ça le je suis. Il n'y a rien de plus banal.
C'est immédiat. En fait.
C'est immédiat. C'est immédiat, c'est constant. Et c'est tranquille. Ça se traduit par de la tranquillité dans l'organisme.
Ça veut dire que le suis est lié au corps. Quand il n'y a plus de corps.
Mais tout est lié au corps, rien n'est lié au... Enfin, tout est lié au... Tout est lié. le je suis. Non, l'être-té se passe du corps. L'être-té se passe du corps. Mais lorsqu'il y a un corps, l'être-té se manifeste en tant que détente dans le corps, en tant que tranquillité dans le corps.
Comment tu sais qu'il y a l'être-té sans le corps ?
Je le sais, c'est une évidence. Je ne sais pas, moi. C'est évident. Je sais pas te le dire. je regarde, je sais pas, c'est évident.
Quand je regarde, je ressens de joie. S'il n'y avait pas de corps, je pense que cette joie n'existerait pas. A priori, je sais rien.
Mais... La joie n'aurait pas de transcription physique.
Voilà, dans le système nerveux. Ou,
bah, évidemment, c'est la manifestation, enfin, surtout cette existence, permet de faire l'expérience de tout cela.
Si un sens, c'est peut-être ça, de faire l'expérience. On sait rien.
C'est la beauté du geste.
La beauté du geste.
Mais la vie n'a pas de sens et n'a pas besoin d'en avoir un. Pour moi, la vie n'a pas de sens et n'a pas besoin d'en avoir un. Dieu merci. Non, quel enfer. Sinon, quel enfer.
Oui, mais ça, alors là, moi je trouve qu'à ce moment-là, tu nous invites à sortir du temps. Mais est-ce que ça... Alors, ok, mais est-ce que ça abolit le temps pour autant autrement dit, moi, autrement dit, moi, je viens d'une racine chrétienne très importante, où il y a un temps, il y a une évolution, il y a un devenir, il y a une histoire, c'est assez passionnant. Et puis après, ça fait 10 ans que je suis dans la méditation orientale. Là, il y a la réincarnation, il y a le retour à la source, il y a un temps, il y a un devenir. Ça, c'est intéressant, c'est encore autre chose. J'ai du mal à m'y faire, mais finalement, je me fais. Et puis maintenant, ah non, il n'y a rien, on va nulle part, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de devenir. Alors moi, je vais perdre un moment. Et je ne sais pas si c'est un roman, mais je vais perdre quelque chose.
Un roman.
Une
belle histoire.
C'est un roman. Alors moi je croyais que c'était une vision de la réalité. Et tu ne me disais pas suite alors.
Je suis désolé.
Mais tu as peut-être pas raison.
Je suis désolé.
Alors moi j'ai un maître oriental,
aïe.
De méditation. Alors je me sens en porte-à-faux. Et alors si je me mets à plus croire à ce qu'il dit, oh là là, mais c'est mal.
Mais c'est quelle tradition le maître ?
Raja Yoga, le Santo Bhakti Yoga.
Mais donc hindou ?
Oui. Modernisé, c'est pas modernisé en tout cas. Alors, si je sors de sa vision de la vie, oh, je m'expatrie à dire. C'est non normal, hein, finalement. Je trouve.
C'est
bien aussi. Ouais. Une histoire, un devenir dans le temps. C'était pas mal. Oui, bien. Ben,
c'était.
Oui, je sais, je suis passée par là. Je ne sais pas si c'est plus vrai. Je ne sais pas si c'est plus vrai.
Dans la tradition hindoue, on parle de Dvaita, la dualité. Advaita, Advaita, la dualité non-duelle. Et de Advaita, la mondialité. Demande à ton maître où est-ce qu'il se situe. Déjà, si tu es dedans, le propos ici, c'est Advaita, c'est non-dualité, la perspective non-duelle. C'est radical, ouais. C'est la voie directe. Maintenant, si tu parles de vie antérieure, et donc de vie future, d'une inscription dans un temps, d'une évolution. J'ai une question par rapport au karma. On dit que si je vis telle chose aujourd'hui, c'est parce que dans une vie passée, il s'est passé telle chose. Mais si dans cette vie passée, il s'est passé telle chose, comment ça se fait? C'est que dans une autre vie passée, il s'était passé quelque chose. Et si on remonte comme ça le fil, il a bien fallu un jour qu'il y ait une première vie passée.
Comment se fait-il que dans cette première vie passée, il soit passé quelque chose de terrible pour moi qui entraîne toutes ces successions de karma dans l'après, dans le futur?
Ben, je crois que, selon eux, on vient des animaux aussi. Enfin, c'est qui a fait des cellules.
Mais même si tu viens des cellules des animaux, il a fallu un jour qu'il se passe quelque chose.
Ben, oui, ben, il se passe toujours quelque chose.
Mais comment ça se fait que ce mal a commencé un jour, s'il est horizontal et seulement horizontal? La réponse, c'est qu'il vient de verticalement. C'est-à-dire qu'on existe dans différents plans de conscience et que dans ces différents plans de conscience, il se passe aussi des choses qui donc vont créer une incarnation de tel type, avec des problèmes de tel type à résoudre, prétendument. Mais sauf que même si on regarde verticalement, au niveau astral et toutes les vies astrales qu'on aurait pu avoir, on va remonter au niveau causal et puis on va où comme ça? Dieu a un karma.
Ah bon?
Ben oui! Sinon, le mal n'existerait pas. D'ailleurs, dans la tradition juive, sans aller chercher très loin de la tradition chrétienne, Dieu est bien et mal à la fois. Et dans la tradition soufie, on dit le diable ne sait pas pour qui il travaille. Et dans la tradition hindoue, on dit le karma sert le dharma. Alors, si tu intègres tout ça, tu vois que le peu qu'on t'a donné autour du karma, quelque part, ça ne tient pas, ça explose.
J'en sais rien, mais j'ai trouvé que c'était bien commode, bien confortable.
Je suis désolé. Pas tant que ça, mais je suis désolé.
C'était bien à me dire, ah, j'ai tous ces malheurs, mais c'est parce que j'ai été si mauvaise dans ma vie passée.
Oh, mais comment
tu crois
ça?
Ah, dis donc, c'est du bien.
Voilà, ça donne un sens, oui. Ouais, ça y est, on a compris le sens de la vie. C'est à cause de mes péchés passés. Arrêtez avec ces sommes. Ouais. On a toujours tous fait du mieux qu'on a pu. Marielle, on a tous toujours fait du mieux qu'on a pu. Toujours. Pourquoi est-ce qu'on serait puni? Alors qu'on a fait du mieux qu'on a pu. Ça n'a juste pas de sens. Et quel serait ce Dieu qui va nous punir?
On a à vivre d'autres choses, l'envers,
Oui. J'ai joué à ça moi aussi pendant des années. J'ai accompagné des centaines et des centaines de gens dans mes vies antérieures et tout.
Ah non, en plus.
Moi, je sais exactement de quoi je parle.
Parce qu'il n'y a pas de moi,
c'est des histoires.
Il
n'y
a pas de réincarnation.
Ah, ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir? Non, moi, le roman que j'aime bien maintenant, depuis quelques temps, c'est de me dire, j'ai choisi, parce que ça se dit aussi ça, j'ai choisi de m'incarner, j'ai choisi les gens avec
d'accord.
qui je vais apprendre une leçon.
Ouais, c'est ça.
On est des âmes qui sont.
Ouais, c'est ça. Alors, comme. T'as choisi de t'incarner. C'est-à-dire que à tel instant T, t'as décidé, bon, papa, maman, maintenant, c'est maintenant tout de suite, parce que sinon, ce ne sera pas le bon ovule et ce ne sera pas moi. Et attention les spermatozoïdes, faut trier. Ouais, tu veux me faire croire cette histoire à dormir debout? Bon, d'accord, j'y ai cru à un moment donné. Mais c'est juste une histoire à dormir debout.
Ben oui, mais ça aide à supporter la vie.
Il y a une synthèse hein, à tout ça. C'est, le moment où tu as choisi de t'incarner, c'est maintenant. Il n'y a que maintenant. Ça peut être la synthèse. C'est juste
sa position. On ne sait rien. On sait absolument pas ce qu'on veut là.
Ben, on s'en fout.
Il n'y a aucune certitude, on ne sait rien.
Exactement, on ne sait rien.
Ça, t'as pas besoin de savoir.
Mais par contre,
c'est dans le présent.
Mais les galères sont vécues en tant que galères, aussi longtemps qu'il y a des pensées autour qui sont crues et qu'il y a un refus de ce qui arrive quelque part. Sinon, ok, c'est peut-être des galères existentielles pures. Mais qui ne sont pas vécues dramatiquement.
Ça arrive tôt dans la vie, et tout, c'est quand même.
Mais regarde les enfants. Regarde les enfants. Est-ce que tu es déjà allé dans les pays pauvres? Moi, j'en ai vu qui jouaient au milieu des tas d'ordures, ils n'étaient pas malheureux. C'est pas. pour un enfant, ce qui est, est normal. Et, tu vois, même les enfants battus, ils ne vont même pas tellement dire que ce n'est pas normal qu'ils soient battus. Ils vont plutôt penser que c'est eux qui ont un problème et c'est leur faute. Tu vois, je veux dire, il y a une espèce d'acceptation naturelle chez l'enfant de ce qui arrive tel que ça arrive, qui disparaît très vite.
Oui, mais devenus adultes aussi, les enfants, après, ils sont bien abîmés aussi. Parce que quand tu vois ce qu'ils deviennent, excuse-moi, là, pour le coup...
Ça dépend comment ils ont été, ça dépend de plein de choses. Mais de toute façon, après, c'est lié à des pensées crues. Mmh. À l'idée d'un moi en premier.
Si elle n'a pas de sens, moi, je me serais fait un autre.
Donc l'idée d'un sens t'a aidé à survivre jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Mais maintenant que t'as plus besoin de te flinguer, tu peux aussi lâcher l'idée d'un sens. Pas. Donc maintenant t'as plus besoin d'avoir l'idée d'un sens, donc tu peux te confronter à quelqu'un comme moi.
Ouais.
Sinon tu pouvais pas, tu serais non, parti déjà.
Ouais.
Tu comprends?
C'est
tout.
Comprendre.
C'est tout. Ben oui, comme t'aimes bien. Hein.
Pour moi, le sens, il vient juste dans la joie d'être.
Mmh.
Et au-delà des problèmes, que tout le monde a des problèmes, mais si on revient à soi, il y a ça, quoi.
Bien sûr qu'il y a cette joie profonde, le bonheur que l'on est, la joie que l'on est. Et oui, bien sûr.
Par contre, ce qui est un peu plus difficile, enfin pour moi, c'est de distinguer si cette joie est pure et parce qu'elle est ressentie physiquement.
Oui.
Et donc, elle est. Et par ailleurs, on n'est pas le corps. Enfin, mais au première évidence, elle se vit quand même dans ce corps.
Bien sûr. C'est-à-dire que, ou bien c'est une joie liée à un phénomène existentiel, ou bien c'est une joie sans objet. Si elle est liée à un phénomène existentiel, elle va et vient. Il y a d'abord le phénomène existentiel, après il y a la joie.
Oui,
qui est en fait un reflet de la joie sans cause.
Oui.
Alors que quand c'est une joie sans cause, sans objet, il y a d'abord la joie qui vient se traduire par des sensations dans le corps.
Il y a aussi, sans parler des événements qui rendent joyeux. Je parle pas de
oui,
ça.
C'est ça, justement. C'est une joie sans cause.
Mais allez, dans mon cas, j'ai l'impression que un mouvement de va-et-vient, c'est-à-dire qu'elle est dans la présence physique aussi.
Mm-hmm.
Il y a cette joie-là. Donc, qui part de l'objet corps, mais qui n'est pas lié à des événements heureux ou malheureux.
Pourquoi est-ce que tu dis qu'elle part de l'objet corps?
Ben, quand je suis en détente,
la joie se révèle à toi.
Oui, mais elle passe par le corps. Enfin,
elle s'exprime dans le corps.
J'ai l'impression qu'elle naît du corps, du coup. Enfin, naît de cette... En fait, c'est peut-être que je vois mal...
Ouais. Pour moi, c'est la joie est tout le temps là. Tu es la joie. Ce que tu es est la joie même. Je suis et joie. Pure, sans objet. Amour, etc., etc. Et lorsqu'il y a des tentes, il n'y a plus rien qui la voile. Donc elle se révèle, elle se traduit dans le corps.
Mais elle est première.
Elle est première, voilée par la contraction, par la centration, la concentration sur une tâche, par les soucis, par etc. Et lorsqu'il y a des tentes, lorsque tout cela s'effondre, les nuages s'enlève et on voit le soleil. Le soleil a toujours été là. Il y a du soleil en ce moment. Même quand il fait nuit, il y a le soleil. Même quand il y a des nuages, il y a le soleil. Mais il est voilé. Et la joie, c'est pareil. Elle est tout le temps là. Nous sommes la joie, nous sommes le bonheur, nous sommes l'amour, nous sommes l'inquiétude. C'est tout le temps là. Et c'est plus ou moins voilé, selon les moments, c'est tout. Et lorsque ça se dévoile, alors ça se traduit par des phénomènes physiques. Il y a des événements qui nous rendent heureux et qui font comme une éclaircie dans le ciel, quoi, comme c'est d'un coup, mais c'est un reflet de la joie pure, les moments de joie existentielle, liés à des événements existentiels.
Tu dis que c'est un reflet parce qu'à ce moment-là, peut-être que ce qui est cru, c'est que l'événement, il y a une détente et la joie peut transparaître dans ce cas-là.
Oui. Oui. Mais surtout, on croit que c'est lié à l'événement, alors qu'en fait, voilà, c'est en soi. Et du coup, on va chercher à recréer un événement au lieu de réaliser « Ah, mais je suis la joie. » Et donc, il n'y a pas besoin d'un événement particulier. Et c'est pour ça qu'un joie peut apparaître dans des circonstances complètement farfelues, comme la douleur physique très forte, ou des choses que n'importe quoi d'autre. Ou la mort d'un proche, ou etc. Ça, c'est une très bonne question.
Est-ce qu'on n'a pas l'idée qu'on cherche, l'imagination de ce qu'on cherche, et on se dit qu'on n'est pas arrivé parce qu'on imagine quelque chose de différent de ce qu'on veut?
Oui, ça peut être une très bonne raison. C'est même la raison la plus fréquente. Une fois qu'on l'a vu, si on ne réalise pas la raison la plus fréquente, c'est qu'on croit des choses à propos de ce qu'elle éveille. Et alors, bah, la réalisation ne peut pas se produire. Je vous invite vraiment, et moi c'était mon cas, ça a duré plusieurs années, je vous invite vraiment à lâcher toutes vos croyances à propos de l'éveil. C'est pas comme vous croyez. L'éveil, c'est banal et ordinaire, et après, il y a des choses qui... Il y a un après-con.
Et il y a des choses qui s'expriment.
Non. Oui. Oui, fais comme tu sens. Mais bien évidemment, attends. Attendez, pas tous d'un coup.
Comment lâcher toutes ces pensées? Est-ce qu'il y a des exercices, une pratique à faire pour arriver à ce que vous êtes?
Ne pas en faire une stratégie, c'est la première chose. Être simple, doux, tranquille, ouvert, aimant vis-à-vis de soi-même. Tomber 10 000 000 fois. Vous connaissez la définition du saint?
Oui.
C'est celui qui s'est relevé une fois de plus qu'il est tombé. Donc vraiment avec cette douceur et cet amour, cette certitude qu'on va tomber des milliers de fois et qu'on se relèvera gentiment, tu vois, en s'encourageant, comme on fait avec un enfant qui apprend à marcher. C'est-à-dire nous, généralement, quand on se casse la figure, quand on fait une erreur, on dit espèce d'imbécile, comment tu peux faire ça, tu n'aurais pas dû, nanana, t'as vu ce que t'as fait, tu vois. Mais quand c'est un enfant qui tombe, qui apprend à marcher, on lui dit, allez, relève-toi, réessaye, tu vas y arriver. Tu vois, c'est une attitude très différente. Ouvert à soi, aimant, tendre, tu vois, et simplement être avec ce qui est là.
Pas de méditation, pas de tout.
Oh, mais si jamais tu aimes méditer, médite. Et si ça te pèse de méditer, médite pas. Tu vois ce que je veux dire? Et si jamais, bon, avec la méditation, quand il y a beaucoup de choses, il y a un moment où le mental renacle de toute façon, parce que c'est un peu un cheval fou, tu vois. Mais passer ce moment-là, ça plaît ou ça plaît pas. Ça plaît, tu continues, ça plaît pas, t'arrêtes. J'ai médité formellement, moi je l'ai très peu fait. Très peu fait. Par contre, la méditation apparaît à tout bout de champ depuis longtemps. Mais quelques secondes. Tu vois, puis ça dépend des gens, ça. Et puis si jamais ce qui te plaît, c'est faire du cheval, bah fais du cheval. Tu vois, ou si c'est autre chose, fais autre chose. Ça n'a pas d'importance. Suis l'allant naturel, le mouvement naturel de cet organisme. Va avec ce qui est là. Il n'y a pas besoin de quoi que ce soit de particulier. Donc soyez tranquille, soyez libre. Plus vous allez être tranquille par rapport à ça, plus ça a de chances de se produire. C'est dans la tranquillité que ça se produit. C'est un refus, c'est la tranquillité qui va le... Enfin, ça fait un avec la tranquillité. Tu vois?
Tu disais, c'est banal et ordinaire.
Oui.
Comment faire la différence alors, si ça s'est produit ou pas?
Oh! En même temps, c'est complètement radical et révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un doute possible. Tu vois, c'est une évidence qu'il n'y a pas d'individu séparé. C'est une évidence définitive. Il n'y a pas de retour possible en arrière. Et là où c'est radical, non, en fait, c'est la seule chose que je puisse dire. Le reste, ça peut varier d'une personne à l'autre.
Il y a eu un événement qui s'est produit.
Oui.
Vous ne pouvez pas en parler,
non ? Si. Ah ouais, j'en ai parlé hier soir, non, déjà ?
Non.
Ce matin ?
Je sais plus.
Oui, parce qu'elle...
Justement, hier soir, tu as évoqué, avant, d'avoir fait de grandes expériences.
Oui,
magiques,
oui.
Et ce que je voulais savoir, c'est la saveur, la substance de ces moments vécus, en fait, au vu de ce que tu viens de dire, en fait, ça n'a rien à voir avec l'état d'esprit.
Rien à voir.
Strictement rien à voir.
Enfin, les expériences mystiques, comme le nom l'indique, ce sont des expériences. L'éveil n'est pas une expérience. C'est la fin d'une croyance.
Ah oui. Mais l'état, enfin moi ça m'est jamais arrivé, donc je suis contente comme ça, je ne cherche pas à reproduire un éventuel état extatique qu'on pourrait prendre pour la
exact.
Sortie.
C'est beaucoup plus ordinaire que l'expérience mystique.
En fait, c'est...
Mais beaucoup plus... Et beaucoup plus profond. C'est là, c'est quelque chose de définitif.
Donc l'événement qui a produit...
En fait, c'est... Oui. Ce qui s'est passé, moi, je ne saurais même pas dire quand j'ai vu pour la première fois qu'il n'y avait pas de moi. Mais il y a des années et des années. Mais je ne sais pas quand. Déjà, la première expérience mystique, en fait, il y avait déjà ça. Sauf que le mental a tout récupéré. Parce qu'il n'y avait aucune culture de tout ça. Donc voilà. Mais même sans ça, et je ne saurais pas dire quand. Voilà. Et puis, il y a eu d'autres fois où ça a été vu qu'il n'y en avait pas. Entre autres, puisqu'il en parlait tout à l'heure, Jean-Louis, je reparle dans mon bouquin, lors d'une crise de colique néphrétique. Dieu sait si ça fait mal, mais en train de vomir de douleur, ça riait, c'était étonné, émerveillé et amusé, en même temps. Pour dire que même la douleur n'a rien à voir avec la souffrance. Ça peut être amusant d'avoir mal. Et ça n'a rien de masochiste. Aussi étonnant que ça puisse paraître et merveilleux que c'est. Donc tu vois, il y a eu des choses comme ça. Et moi, ce qui a fait réellement que la bascule ne s'est pas produite, c'est que je croyais que l'éveil, c'était au moins un état mystique permanent, tu vois. Et donc, puisqu'il n'y avait pas ça, c'est qu'il n'y avait pas d'éveil. Et donc, c'est qu'il y avait encore un moi. Parce que j'avais l'idée que le moi allait et venait. Quand on croit à un moi, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en parlant avec quelqu'un qui avait vu ça, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu crois à propos de l'éveil? Comment tu crois que c'est l'éveil? Bah, comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Oui. Tu vois? Évidemment, c'est l'amour pur, permanent, enfin, c'est nirvana, quoi. Oui. Et elle m'a dit, qu'est-ce que t'en sais, en réalité? C'est une femme.
Yolande, non?
Pardon?
C'est pas Yolande.
Non. Et la réponse était, ah bah oui, c'est vrai, j'en sais rien, seulement ce qu'on m'en a dit. Seulement ce que je crois. C'est juste une croyance. Alors la croyance s'est effondrée et ça a été vu comme étant une croyance. Et s'est effondré. Et ça s'est produit à ce moment-là.
C'est une
croyance
quand même.
Oui.
Justement, c'est pas qu'une croyance. C'est comme tu vois, c'est parce que comme tout le monde, il y a eu des moments d'explosion, d'états de formidables. Donc c'est pas seulement ce que j'ai lu, c'est une expérience. Que je mets l'éveil à certains certaines caractéristiques que j'ai vécues.
Oui.
Donc c'est pas une croyance.
Sauf que ce que tu as vécu, c'est une expérience.
Oui, parce que
ça ne dit rien de ce qu'est l'éveil. Et on croit que cette expérience dit quelque chose à propos de l'éveil. C'est faux. Moi, c'est ça qui a fait le changement, c'est de réaliser que c'était faux. Que toutes les plus belles expériences que j'avais pu faire, mystiques ou non mystiques, n'avaient rien à voir avec l'éveil. Qu'en réalité, je ne sais pas ce qu'est l'éveil. Tant qu'il ne s'est pas produit, je ne peux pas le savoir. Et que donc, abandonner l'idée que l'éveil, ce sera comme ci et comme ça, compte tenu des expériences que j'ai faites, ou des expériences que j'ai lues que les autres ont faites, tu vois, abandonner cette idée-là. Parce que souvent, les gens qui en parlent, ils parlent de l'expérience du moment de l'éveil, qui est bien sûr souvent transcendantale pour beaucoup. Pas pour tous. Pour moi, c'était d'une banalité ordinaire aussi. Mais parce qu'il y a eu tout le reste avant, hein, aussi. Mais souvent, ils parlent de cette expérience. L'expérience dans le parc de Tony Parsons, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ce n'est qu'une expérience faite au moment de la bascule. C'est pas ce qui dure tout le temps chez eux non plus. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, on s'attache à cette expérience et dit « Ah, c'est ça !»
Non.
Et en plus, la bascule se passe différemment pour chacun. Il y en a, c'est une banalité, mais alors, à couper le souffle, il y en a, on ne le voit même pas. Non, il y en a, ça se passe. Il y en a une, tu étais à Nantes, elle est venue me voir 2 jours plus tard, et elle m'a dit, est-ce que c'est ça? J'avais rien vu au moment où ça s'est passé. pour te dire à quel point ça peut être banal, tu vois, simple.
Mais vous, vous pouvez le voir chez quelqu'un qui atteint cet état.
Ça peut, mais pas toujours. Là, je l'avais pas vu. Tu vois ce que je veux dire?
Tu peux revenir à la phrase que tu as dit tout à l'heure. C'est pas une expérience. C'est, je sais pas si tu as dit, c'est la fin d'une croyance ou c'est la fin des croyances.
Ah, la fin d'une croyance. La croyance dans l'existence d'un moi.
C'est ça.
C'est toujours la pensée moi qui nous cause le plus de problèmes. Les autres peuvent nous en causer aussi, mais moins proportionnellement. Si tu veux, la pensée moi, elle tient tout le système.
Ce que j'ai aimé, Yann, vous avez parlé de cet état, en même temps, vous pouvez avoir plein d'émotions.
Oui.
Et ça, j'ai adoré, quoi, ah, parce que j'avais l'impression vivant, qu'on était là comme.
Non, mais regarde statue, comment je suis, est-ce que j'ai l'air de horrible. Quelqu'un de.
Oui, oui, non, mais ça,
statufié et mort, je sais pas quoi.
Ouais.
Comme je disais une autre fois, je suis toujours autant black bait, j'essaye de me retenir, mais j'y arrive pas.
Mais il y a une permanence de c'est un, comme je dis, c'est incontable, il y a une permanence. Il y a quelque chose qui a été touché, il y a une résonance profonde qui s'est faite, et ça ne te touche plus. Hein.
Ah oui. C'est-à-dire qu'au début, pendant les premières une, deux semaines, je ne sais pas, la pensée moi pouvait revenir. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Mais attends, mais est-ce que, tu vois, c'est presque du mal à y croire, tu vois? Évidemment, tu vois? Évidemment qu'il n'y a pas de moi, c'est évident. Et surtout, ce qui m'a frappé, c'était ça. Mais comment j'ai fait pour ne pas le voir plus tôt? C'est tellement simple. C'est Ramana Maharshi qui disait c'est tellement simple.
Oui, respire.
Il n'y a pas de moi, il n'y en a jamais eu. Il n'y en aura jamais, aucun moi n'a jamais rien fait. Je ne peux rien vous dire d'autre. Il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu. Il n'y a pas d'individu séparé. Il n'y a personne aux commandes. Il n'y a pas d'agissant.
Donc, est-ce qu'on doit mettre en lumière à chaque fois qu'on a cette sensation du moi, est-ce qu'on doit...
À chaque fois que tu as la sensation du moi, c'est une invitation à regarder qu'est-ce qui te fait croire que c'est un moi. Qu'est-ce qui fait croire? Dans le corps ou dans la pensée? Tu vois, parce que par exemple, vous pensez qu'il y a un moi? Ok. Où est-ce qu'il est dans le corps, ce moi? Regardez, où est-ce qu'il est dans le corps, ce moi?
Dans le refus.
Donc le moi, c'est le refus? Perdu. Un refus n'est pas un agissant. C'est une pensée. Ça agit. Il y a une action qui se produit. Est-ce qu'il y a un moi qui produit l'action? Ou est-ce que l'action se produit?
On ne sait pas. On sait qu'il y a quelque chose d'agissant.
Oui.
Il y a quelque chose qui prend des décisions.
Est-ce qu'il y a quelque chose?
Ça décide.
Le choix se fait.
Oui, le choix se fait. Des actions.
Mais tu viens de parler. Est-ce que tu as choisi de parler? Est-ce que tu as choisi tous les mots que tu as dit? Est-ce que tu as choisi de remonter tes cheveux là tout de suite? Est-ce qu'il y a un agissant qui a fait ça ou est-ce que ça s'est fait de soi-même?
Il y a quelque chose.
Est-ce que tu choisis de rouler des yeux là tout de suite? Tu ne le sens même pas.
Non, ça non. Mais il y a une partie où.
Et ça, t'as choisi de le faire?
Oui.
Il est où l'agissant qui a fait ça?
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui agit. Il y a une force qui meut tout ça, on est d'accord. Je ne dis pas que c'est moi, on l'appelle comme on veut.
Ok, ça se meut.
Là, oui.
Il y a mouvement.
Oui.
D'accord. Mais il n'y a personne ou comment?
Ça qui
non.
Est dur.
Mais quand il y a non. De moi, les relations,
j'ai envie de dire, je suis d'accord avec ça,
les relations.
Mais ça t'aide en rien?
Hein?
Attends, une autre fois, je peux pas tout ça. Je suis désolé, j'ai deux oreilles, deux yeux, deux mains et tout. Mais tu vois ce que je veux dire? Et alors, il est où ce moi que tu prétends
mais je sais, moi je sais
exister?
Pas si
tu sais pas s'il y en a.
Non, j'observe qu'on dirait qu'il y a des tonnes de personnages et que chacun s'agite.
Ouais.
Il y en a un qui est en... Oui.
Okay.
Il y en a un qui est en colère.
Tire-en les conclusions. Il n'y a pas de moi. Apparemment, j'en trouve pas. S'il n'y en a pas, qu'est-ce que ça veut dire? Tu me donnes le résultat demain. Tu me fais un devoir écrit, 4 pages.
C'est ça que je ne vois pas, mais ça, c'est comme si j'ai envie de dire. Ça ne fait rien de logique.
Tire-en les conclusions, je peux que te dire ça. Enfin, au bout de ça, il n'y en a pas. Quelles en sont les conséquences? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi dans ta vie s'il n'y a pas de moi? Et quand il y en a d'autres, je vais essayer.
Oui, par rapport, il n'y a pas de moi. Et les relations se font comment alors?
Bah, spontanément, comme elles ont toujours lieu, spontanément.
Je considère par exemple ma petite fille comme comment alors?
Pas comme une partie de toi, de la chair de ta chair.
Donc de ma chair, de...
Mais tu le sais bien mieux que moi, en plus t'es une femme.
Oui, donc il y a quand même une relation. Il y a une relation.
Mais évidemment qu'il y a une relation, pourquoi il n'y en aurait pas?
Puisqu'il n'y a plus de moi.
Mais il n'y en a jamais eu.
Ma petite fille n'est pas un moi.
Ça a toujours été ta petite fille.
Oui.
D'accord, mais il n'y a jamais eu de moi. Il n'y a jamais eu de moi. Il y avait déjà des relations avant que je te dise ça.
Oui.
Il y en aura encore. Ça change rien.
Oui, d'accord. Donc on se comporte, oui.
Mais pareil.
Pareil, oui.
Enfin, moins encombré quand même.
Voilà, c'est ça.
Moins encombré par beaucoup de choses.
Oui.
Et surtout, les choses qui encombrent, dès qu'elles sont vues, s'effondrent.
D'accord.
Pour ce qu'elles sont. Et qu'elles sont vues pour ce qu'elles
dans
sont, s'effondrent.
Dans les conflits, tout ça. Oui.
Oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit, hein. Attention.
Oui, bon, ils se résorbent plus facilement, peut-être.
Ils ne laissent pas de traces. Oui.
La croyance en moi, elle est tellement enracinée, c'est impensable presque.
Ah, oui.
De,
ah, oui.
Parce que même ça fait 40 ans que j'entends dire il n'y a pas de moi et tout,
oui,
tous les
oui,
sens
oui,
possibles.
Oui,
oui. Mais il y a un truc qui ne lâche pas, c'est que je vois toute cette histoire de moi qui a une certaine cohérence. Ça fait 40 ans que je suis dans les mêmes. Intérêt dans les mêmes.
Mais ça va continuer, Jean-Louis.
Il y a une. Et en fait, la seule chose à réaliser, c'est que c'est pas si facile que ça d'accepter, il n'y a pas de moi. Et c'est ce qu'il y a de plus dur. Enfin, je veux dire, c'est ce qui est. C'est l'essentiel de tout ça.
Oui.
Et c'est ce qui est le plus. On peut de temps en temps avoir. Voir que c'est autre chose qui marche. Mais ça a une pleine cristallisation, enfin, je sais pas comment...
Mais comment ça se fait que c'est tellement cristallisé? Comment ça se fait que tu tiens autant à l'idée d'un moi?
C'est pas que j'y tiens. Je serais très content de plus l'avoir, cette idée-là. Et c'est qu'elle s'impose à moi, enfin, je sais pas. C'est pas que j'y tiens. Non, non, c'est...
Mais comment ça se fait, lorsqu'elle s'impose, que tu la laisses être, que tu te laisses y croire, alors que tu sais qu'elle est fausse?
C'est un peu comme quelque chose là, quoi, de, au centre de la poitrine. Là, qui, ah non, c'est pas une peur.
Qui quoi? Finis ta phrase, qui?
Bah, qui fait que je suis moi.
Ah. Donc il y a une sensation dans la poitrine,
enfin, global,
qui fait croire en l'idée d'un moi.
Je dis la poitrine, mais c'est un peu diffus. Hein.
Mm-hmm.
Et qu'il y a une seule. Oui, c'est, on peut appeler ça une sensation. Peut-être.
C'est une sensation. Est-ce que cette sensation s'étiquette elle-même, moi?
Ben là, c'est dans le passage quand je mets des mots.
Mm-hmm.
Donc, mais au départ, est-ce que c'est plutôt une sensation d'être moi?
Oui, il y a une sensation d'être moi. D'accord. Oui, beaucoup de gens ont ça.
Oui.
Cette sensation d'être moi, est-ce qu'elle est différente d'autres sensations? Est-ce qu'elle a quelque chose de très spécifique par rapport aux autres sensations? Et si oui, quoi?
Et global.
Et global.
Ouais.
Donc, tu n'as pas d'autres sensations globales.
Et intime.
Elle est intime. Tu n'as pas d'autres sensations intimes.
Globale et intime.
Tu n'as jamais d'autres sensations globales et intimes.
Après, je peux
quand avoir... tu fais l'amour, par exemple.
Ouais, j'allais prendre cet exemple-là. Mais dans cet exemple-là, ça aussi, ça passe par le corps. Encore.
Ça passe par le corps.
Oui.
C'est pareil.
Est-ce que...
À un moment donné, on disparaît.
Oui.
Mais il y a le corps qui est quand même très...
Oui. Donc il existe d'autres sensations globales et intimes. Est-ce que ces sensations globales et intimes...
participent à cette sensation d'être moi?
Oui, elles participent?
Oui.
Ok. Est-ce que... Donc...
Bah, pour moi.
Ok, non, non, mais attention, mais c'est intéressant parce que... Donc il y a des sensations globales et intimes qui participent à l'idée d'un moi, et il y a une sensation globale et intime qui s'étiquette, enfin, qu'on appelle moi.
Que je ressens.
Que tu ressens comme moi. Est-ce que cette sensation globale et intime que tu ressens comme moi s'étiquette elle-même moi?
Non.
Non.
Non, mais...
Donc il y a une association entre une sensation globale et intime et l'idée d'un moi.
Oui.
D'accord. Et est-ce que cette sensation globale et intime est différente des autres sensations globales et intimes une fois que tu enlèves l'étiquette moi?
Comme quoi?
Elle est différente physiquement, en termes de sensation, elle est différente, mais est-ce qu'elle est d'une nature différente, spécifique, spéciale, tu vois?
Bah dans le sens qu'elle est tout le temps là, alors que les autres apparaissent et disparaissent.
Elle est tout le temps là?
Peut-être que j'exagère un peu.
Regarde! Est-ce qu'elle est tout le temps là?
Bah, il suffit que je fasse, les autres sensations, etc., vont être ponctuelles, alors que la... cette sensation intime d'être moi peut arriver dès que, par exemple, je m'arrête. Si je, si je me pose, ça va venir. Alors que
donc, elle n'est pas tout le temps là. Elle est là quand tu t'arrêtes. Donc, elle n'est pas tout le temps là.
Mais elle est en filigrane. Si
elle est en filigrane. Et,
alors que les autres événements...
Ok. Et qu'est-ce qui fait croire... Alors, est-ce que cette sensation que tu appelles moi est agissante? Est-ce que c'est elle qui fait des choix? Est-ce que c'est elle qui fait qu'il y a des pensées, qui pense? Est-ce que c'est elle qui pose des actes?
Non, je ne sais pas.
Non. Quel est son rôle?
Sensation d'être. C'est un peu ce que je parlais aussi tout à l'heure, de la joie d'être.
Et attention, parce que là, maintenant, tu bascules de la sensation d'un moi individu séparé à la sensation d'être qui n'est pas individu séparé.
Oui, parce que par certains côtés, je sais que je ne suis pas l'individu séparé.
Mais non seulement tu le sais, mais tu en as déjà fait l'expérience.
Oui. Mais en même temps, ce n'est pas pour ça que ça, ça s'est éclaté. Il y a comme quelque chose qui tient le truc.
Qui tient quoi exactement?
Ben, cette idée d'un moi.
Qui serait fait de quoi?
Ben, de toutes les expériences, de toutes les sensations...
Donc le moi serait le moi serait la somme des expériences, des sensations, des perceptions, etc.
Oui.
La mémoire, etc.
La mémoire,
Mais en quoi est-ce un individu séparé qui pense par lui-même, agit par lui-même et fait des choix par lui-même? Cette somme
entraîne certaines actions.
Oui. Mais c'est un mécanisme, c'est des mécanismes.
D'autres actions.
D'accord, c'est-à-dire qu'il y a un organisme qui vit des choses, qu'on a une mémoire, et ça fonctionne, et voilà. Qui a des sensations précises, personnelles, des émotions précises, personnelles, une histoire personnelle, etc. Mais ça ne crée pas un individu, ça crée pas un individu séparé qui pense par lui-même, qui agit par lui-même, et qui fait des choix par lui-même.
J'ai l'impression d'une densité corporelle.
C'est vers à qui je vois là qui.
Ce serait comment si l'histoire de moi s'effondrait? Et qu'il n'y avait plus l'idée d'un moi avec mon histoire personnelle, avec mon vécu personnel, mes expériences personnelles, mes sensations, etc. Ce serait comment? Que tout ça s'effondre, qu'il n'y ait plus rien.
Et ça, c'est un peu la... que je comprends maintenant, ou voir maintenant, c'est la peur de la disparition. C'est pas vraiment la peur de la mort, parce que j'ai failli mourir.
Oui, la peur de la disparition du moi.
J'ai pas eu... C'est passé autrement. Oui. Donc, c'est la peur de disparaître.
La peur de disparaître en tant que moi.
Voilà.
Ouais. Ben, c'est ça qu'il y a besoin de regarder.
Dans un certain sens, j'ai peur parce que j'ai l'impression qu'il n'y aura plus rien.
Oui.
Or, tout prouve le contraire.
Oui.
Enfin, tous les gens.
Mais la peur est quand même là. La peur est quand même là. Elle est très personnelle. Oui, la peur de disparaître. Exact. Comment est-ce qu'elle se manifeste dans le corps, la peur de disparaître?
Ben, je crois que c'est une peur plutôt mentale.
Comment est-ce qu'elle se manifeste dans le corps?
Dans mon corps, ça, j'ai pas peur.
Tu ne repères pas la sensation, mais s'il y a de la peur, il y a forcément une sensation dans le corps, il y a forcément une tension quelque part.
fois j'ai eu mon accident de train, j'étais sous le train, j'avais une chance sur deux d'y passer, et je n'ai pas eu une seconde peur. Il y a eu, je suis pur esprit qui est apparu dans les. Mais aucune peur. Donc j'ai pas une peur physique.
Je sais, oui.
L'impression, c'est une peur.
Oui, c'est la peur. Oui, tu sais, moi aussi on m'a parlé de ça. Je sais plus qui est-ce qui me dit ça. Je crois, je sais pas si c'est Paramèche Paseka, je parlais, je sais plus lequel, dit on a peur de la mort. Oui, non, moi j'ai pas peur de la mort. Et puis je sais même pas comment ça s'est fait, mais j'ai réalisé que oui, j'ai pas peur de la mort physique. Mais peur de la mort du bois, ça j'avais très peur. Oui, tout à fait, bien sûr, j'avais très peur de ça. Je vais disparaître, c'est exactement ça. Mais on a tous quelque chose comme ça. Après, ça peut prendre des teintes différentes, mais on a tous des peurs de fond qui font que ça ne se produit pas, bien évidemment. Mais cette peur, elle se traduit dans le corps par quelques sensations faibles, mais présentes.
Oui, un petit vertige.
Un petit vertige.
L'autre jour, là, avec Pierre-Antoine, à un moment donné, j'avais dit un petit truc sur... Mais je me suis dit dans ma tête pendant qu'il parlait, mais je ne sais plus de quoi on parlait. Qu'est-ce que je serais. Alors, toujours, c'est l'histoire de mon fils, mais vous n'avez pas compris. Qu'est-ce que je serais sans ça? Et là, tout d'un coup, il était très fortement en méditation. Hein, et tout d'un coup, j'ai vu un petit point tout brillant, tout dur, gros comme une graine de sésame, tout rond et tout dur. Et puis il n'y avait rien avant, puis il n'y avait rien après. Et je me suis dit, oui, c'est ça, ou la trouille. Puis c'est passé. J'ai eu un vertige, quoi. Je me suis dit, alors je ne serai plus que ça. Une chose toute petite.
Mais tellement énorme.
Sans rien avant, sans rien après. Mais j'ai senti que c'était vrai, que c'était juste, c'était ça. Et j'ai. Ah, je suis pas prête. Et puis en fait, depuis, j'arrête pas de revenir à ça en désirant. Mais. Voilà, j'ai senti qu'il y avait du vertige.
Ben, j'ai eu un peu la même chose il y a très longtemps, entre une méditation tibétaine avec la lettre A en tibétain, comme ça, qui se finit par une pointe. Et on est complètement concentré, les bleus luminescents, on est complètement concentré sur la lettre, et on la fait disparaître comme ça. Et on est arrivé à une telle concentration qu'on n'est plus que cette flamme. Et elle disparaît, et juste avant la fine pointe de la flamme que j'allais faire disparaître, j'ai eu peur. Et je sentais que là, enfin, c'est la même chose, quand c'est cette peur de disparaître, ou d'être réduit à...
De ne plus exister, de ne plus exister, même que de ne plus exister.
Merci.
Ah oui, c'est attirant.
Tu penses ?
Oui, c'est la solution.
Hors temps, hors dimension, ce qui paraît tout petit, mais immense. Hors temps, hors espace. C'est pas limité. Peut-être que vous allez disparaître. Puisqu'il y a la peur de disparaître. Regardez de ce côté-là. Imaginez, je disparais. Imaginer disparaître. Explorer ça. Est-ce que c'est tellement dramatique si je disparais? Est-ce que ça vaut le coup de lutter tellement contre ça? Constatez aussi que cette peur de disparaître, elle est fuie. Évitez. On la touche à peine et ouh, on est au courant. Regardez le mécanisme de fuite. Apprivoisez le mécanisme de fuite. Soyez avec la fuite qui va plus vite que la lumière en présence.
Donc, chaque nuit, ça ne pose aucun problème de disparaître.
Oui.
C'est même plutôt, plutôt souhaité. Ça qui est bizarre.
Ah oui. On est plein de contradictions.
Quand tu parles de disparaître, ça me fait exactement comme quand tu dis essayer de ne pas être.
Mm-hmm.
Moi, c'est équivalent.
C'est-à-dire,
ben, ça résonne comme ça en ce moment.
C'est-à-dire que tu sais que tu ne peux pas disparaître, tu veux dire?
Ça fait pareil. Ça, c'est...
Eh bien alors, tu peux y aller, c'est bon. Tu peux explorer ça facilement.
J'ai très mal pour ma place.
Et tu ressens la peur de disparaître? Tu ressens la peur de disparaître ou pas?
J'ai des sensations physiques.
La question est, est-ce que ça te parle, la peur de disparaître? C'est quelque chose qui te concerne?
Moi, j'ai le cœur qui bat plus fort. Et j'entends ce que tu me dis, mais je ne sais pas, de pas très plus.
D'accord.
Il y a plus les sensations. Mais... Et la lumière a l'air de changer. Mais ça regarde tranquillement. Il y a un peu de choses. Ça pourrait être comme un film pour rien plus. C'est quoi la question?
Oui. Restez avec cette peur de disparaître. Si jamais ça fout le camp, si un mécanisme de fuite se met en place, regardez le mécanisme de fuite, le mécanisme d'évitement. Comment se fait-il que cette peur soit tellement fuie, évitée? De quoi est fait ce mécanisme de fuite?
La disparition de tout ce que je crois être.
Oui. Seulement de ce que tu crois. C'est l'effondrement de croyance. Ce ne sont que des constructions, que des croyances. Ce que vous êtes demeure.
On ne sait pas ce qu'on est. Du coup, on n'a rien à quoi se raccrocher.
Oui, c'est une chute libre. Oui. Sans parachute. Oui. Il n'y a pas de sol sur lequel s'écraser. Je suis là pour le coup.
C'est ça, comme on peut faire peur, c'est le fait de ne pas savoir. Ce qu'on quitte et ce qu'on va trouver, c'est...
Ah. En fait, c'est vrai, c'est faux. À la fois, vous ne savez pas que ce qui est collé oublie, donc ne sait pas, l'ignorance dont on parle en tout cas très bien. Mais en fait, vous savez très bien. Parce que c'est oublié, c'est voilé. En fait, vous savez très bien ce que vous allez trouver. Vous allez trouver cette zone de tranquillité, de paix, d'accueil, d'ouverture, de non-savoir, de présence, que vous avez déjà contacté, ce je suis dont on parle. C'est là-dedans que vous tombez. C'est cela, c'est ce à quoi vous revenez en réalité. C'est ce qui cesse d'être voilé. Parce qu'en réalité, vous ne l'avez jamais quitté. tu l'as ressenti tout à l'heure lorsque ça s'est mis à sourire.
Oui, mais c'est très agité.
Ça t'intéresse de vivre tout le temps?
C'est pas que ça m'intéresse de vivre tout le temps, c'est que ce qui m'intéresserait, c'est de savoir que c'est là, c'est acquis. Ça va pas partir. Enfin, ça peut partir, mais ça peut revenir. Enfin, je sais pas, il faut que ça devienne une certitude, vraiment une vraie certitude sur laquelle je peux m'appuyer. Enfin, je sais pas si...
Oui, je comprends bien, mais...
Voilà.
Ou bien tu sais que le sourire qui est apparu tout à l'heure est plus proche de ce que tu es que l'histoire que tu as racontée, qui est l'histoire de ta vie, ou bien tu ne le crois pas, ou bien tu le réalises, ou bien tu ne le crois pas. Je suis désolé.
Ouais. Non, mais je pense que j'arrive à saturation.
Ouais.
Je suis un mot sur deux, je ne comprends plus rien. Honnêtement, donc, je dis juste mon ressenti, mais je crois que je ne peux plus entendre. La coupe est pleine, et après, c'est le mental qui essaye d'essayer de comprendre ce qu'on est en train de me dire.
Bon, on va laisser tout ça se reposer. À demain.
Merci.